invite à tourner les pages de l'Écriture dans le psaume 27. Psaume 27, un passage pas trop compliqué à trouver. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne m'en cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi tes voies. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. David, dans ce psaume, fait part de son désir d'avoir un refuge. Et à la fois, il en aimait le désir, et ce qui est intéressant dans le texte, il en aimait aussi l'assurance déjà de l'avoir. Vous avez vu sa prière ? D'abord, il clame, tout va bien, l'Éternel est ma lumière, mon salut, pourquoi aurais-je peur? Quand les malfaiteurs m'approchent pour dévorer ma chair, mes adversaires, mes ennemis, c'est eux qui trébuchent. Qu'une armée prenne position contre moi, je n'aurai aucune crainte. Mais je désire une chose, c'est habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. On cherche tous, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, une zone refuge. Une zone où là, on a l'impression que personne ne pourra venir nous attaquer, ne pourra venir nous détruire. Et dans cette quête, cette préoccupation, certains vont dans le confort matériel. Ah, quand j'ai le confort matériel, alors tout va bien. Merci, ma sœur. D'autres cherchent un matelas financier, des actions à la banque. Ah, si j'en ai, je serai tranquille. D'autres, un réseau d'amis, beaucoup d'amis sur la surface de la terre que je peux appeler quand je veux. Ou encore. Un pied-à-terre, une maison, un logement, un endroit, une tente, une caravane où je pourrais prendre du repos, où je peux m'échapper. J'ai noté là qu'il y a même en Bourgogne, je vous dirai pas où, certaines personnes qui se sont préparées à la fin du monde. Ils ont créé un abri antisismique. C'est-à-dire que même s'il y a un tremblement de terre, la maison ne s'effondrera pas. On ne pourra pas leur tirer dessus parce que c'est enterré. Et en plus, ils ont mis de la nourriture. J'espère qu'ils vérifient de temps en temps la date. En cas de conflit nucléaire. On a besoin de savoir qu'à un moment, on aura un refuge. Et David, là, il n'est pas dans la tranquillité, il dit, il y a même une armée qui m'entoure. Mais Seigneur, je suis en paix. Mes amis, la chose la plus intéressante, c'est que dans sa quête, l'homme, la femme, vous et moi, les jeunes et les moins jeunes, dans notre quête de sécurité, nous avons le privilège d'avoir un Dieu, lui, qui a pris l'initiative. Il a pris l'initiative en créant lui-même et en demandant à son peuple de lui créer un endroit où lui et eux peuvent se réunir. Un endroit où lui et eux peuvent communier, peuvent partager. On appelle ça aujourd'hui, nous, un lieu de culte. Dans l'ancienne alliance, ça s'appelait un tabernacle. Et vous savez quoi ? Le mot tabernacle apparaît dans le Nouveau Testament sous un autre aspect, parce que quand Jésus dit « Je viens faire ma demeure en vous », le mot « demeure », c'est la traduction de l'Ancien Testament de « tabernacle ». Et donc quand Dieu dit « Je viens, le Saint-Esprit viendra faire sa demeure en vous », il dit « Viens tabernacler ». C'est-à-dire établir un lieu de communion avec notre Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit dans l'Ancien Testament, toute la préparation pour ce tabernacle. On trouve ça un peu sec, non ? Quand on lit dans Exode, toute la préparation, d'abord il y a Dieu qui le transmet à Moïse, après il y a Moïse qui le transmet au peuple, et puis après il y a le peuple qui se le répète, et on se dit, c'est lourd, hein ? Pourquoi Dieu nous a laissé tout ça ? Tout simplement parce que Dieu veut nous montrer avec quel détail. Nous avons un Dieu de détail. On n'a pas un Dieu superficiel. On n'a pas un Dieu global, Dieu pour tous, tous pour Dieu, mais où Dieu vise l'individuel. Et donc, Dieu a créé un sanctuaire mobile. C'est lui qui en a ordonné, qui a pris l'initiative. Il n'y a pas eu des défilés dans la rue avec des panneaux « On veut un tabernacle, on veut un... » Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas Moïse qui est venu en disant « Et le peuple, il voudrait bien te rencontrer, Seigneur. » Ils râlent parce qu'ils n'ont pas d'endroit. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et ce qui est intéressant, c'est que un tiers du livre, 13 chapitres de l'Exode, sont consacrés au tabernacle. Et quand on le lit, on va très vite, parce qu'on se dit, ouais, bon, des barres bleues, des barres rouges, de l'or, des anneaux. Bon, moi, je ne suis pas couturier. Il me parlerait de vis, de boulons. Mais son but, c'est d'avoir un lieu qui honore la personne de Dieu. Il veut, dit le chapitre 25, habiter au milieu de son peuple. Procurer aux hommes pécheurs un moyen de communion constante. On a en souvenir, si on est des lecteurs un petit peu de l'Ancien Testament, cette rencontre d'un Dieu entouré de feu, dans le chapitre 19 du livre de l'Exode, sur le mont Sinaï. Un Dieu inapprochable, invisible. C'est 19, 10 à 22. Et d'un autre côté, un Dieu qui veut créer une place où il peut être rencontré, dans la paix. Un Dieu atteignable. Un Dieu qu'on peut toucher. Vous savez, la plupart des religions, je parle bien des religions, je ne parle pas de ceux qui ont des relations avec Dieu, la plupart des religions parlent d'un Dieu au ciel, un Dieu inaccessible. Il a une secrétaire qui ne laisse jamais passer les communications. Qui, à chaque fois qu'on veut l'appeler, disent « il est trop occupé ». Ses courriers n'arrivent pas. Non. On a un Dieu qui a voulu créer ce contact. L'image et l'ombre du sanctuaire céleste étaient déjà imprimées dans le tabernacle. Moïse a pris le soin de construire avec les hommes du peuple d'après le modèle communiqué par Dieu. L'exécution en a été conforme. Ce lieu refuge avait besoin d'être exactement comme Dieu l'avait défini. Et ce qui est intéressant, c'est que en deux chapitres dans l'Exode, il sera dit 18 fois, que le peuple ou Moïse ont fait les choses exactement comme Dieu l'avait voulu. 39.1, 39.5, 39.7, 39.21, 39.26, je vous invite à chercher. Quand Dieu nous communique quelque chose, il attend de son peuple que son peuple le fasse. Et ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est que pour que les hommes le fassent, quand vous lisez le livre de l'Exode, vous voyez que ceux qui l'ont fait avaient le cœur durement touché. Ils avaient reçu un esprit de Dieu. Tiens, c'est intéressant. Non ? On ne trouve pas ça que dans le Nouveau Testament. Chapitre 2 du livre des Actes, le début de l'Église. Ceux qui eurent le cœur touché posèrent la question à Pierre : que ferons-nous ? Repentez-vous et convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Ah ! C'est intéressant que 10 siècles avant, et plus, Dieu dise de son peuple, de ceux qui étaient en train de lui construire un tabernacle momentané. C'était pas le définitif. C'était l'ombre des choses à venir. Et le peuple et ses dirigeants ont fait tout ce que Dieu leur avait demandé. Ils n'ont négligé aucun bouton, aucun anneau. Ils n'ont pas voulu changer la couleur. Ah, moi, j'aime pas la couleur de la moquette. J'aime pas la couleur des tapisseries. J'aime pas le rouge. Et ce qui est intéressant, quand on lit l'Écriture, bien des fois, quand on parle des héros de la foi, vous savez, ces hommes dont on aimerait bien atteindre la stature, il est dit d'eux qu'ils ont fait tout ce que Dieu leur avait demandé. Genèse 7.16. Ceux qui vinrent, mâles et femelles de toutes sortes, entrèrent comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis le Seigneur ferma la porte sur lui. Dieu avait donné un plan, et vous vous rappelez, Monsieur Noé, pendant 100 ans, en train de bâtir son arche. Et les gens de dire, oh le fada là, attends, t'as vu, t'es dans le désert mon pote là, t'attends quoi là? Et il pouvait leur dire, hein, j'attends le déluge. Genèse 17, verset 23. Ceux qui ont regardé la télévision le samedi dernier ont vu ça. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux avec qui il avait racheté son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, il les circoncit ce jour même, comme Dieu lui avait dit. Plus loin, Exode chapitre 40. Moïse fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné. Ainsi fit-il, rien ne fut laissé à la fantaisie humaine. Chaque détail avait son importance. Hébreux chapitre 8, verset 2 nous dit qu'il y avait là l'imitation du véritable. Cette zone refuge tellement désiré par les hommes, tellement clamé par le roi David. Dieu en a pris l'initiative de nous créer cette zone refuge. Une zone où nous pouvons être en communion, les uns avec les autres. Mais heureusement, ça ne se limite pas, comme dans l'Ancien Testament, au mur. Nous pouvons le pratiquer chaque jour. Le rituel, le culte, les sacrifices, le sacerdoce d'Aaron sont des types, des illustrations, des choses qui nous montrent des prophéties de la personne de Jésus-Christ. Tout n'était pas parfait. Et les sacrifices qui étaient offerts couvraient, cachaient le péché. Mais le seul sacrifice, la seule action qui a permis que le péché de tous les hommes soit lavé, il a été, pas dans un building, pas dans une zone sacrificielle, mais dans une zone de spectacle. Dans une zone de spectacle. Et là, il y avait trois croix d'exposées. Sur une était écrit « Rébellion ». Sur l'autre était écrit « Repentance ». Et sur la croix du milieu était écrit « Rachat ». Et notre Seigneur était sur cette croix centrale, la croix du rachat. Il avait d'un côté un ennemi, un collègue crucifié avec lui, en train de mourir avec lui, qui n'avait que cesse de se rebeller. Et de l'autre côté, quelqu'un qui avait compris comme Jésus que ce qu'il avait fait l'avait conduit jusque-là, mais que Jésus pouvait l'en délivrer. C'est là que le vrai sacrifice a pris la place. Alors, pourquoi tant de détails? Pourquoi prendre avec autant de minutie pour construire quelque chose qui n'allait pas durer? Parce que, mes amis, nous sommes de passage sur cette terre. Et ce que nous faisons, ce que nous voyons, n'est que l'image des choses à venir. Et nous avons tendance un peu à bâcler, un peu à négliger. Nous décidons ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Vouloir ramener l'Ancien Testament, vouloir ramener les rituels, n'est pas ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut en créant cette zone contact, c'est nous rappeler que quelque chose d'important, c'est ce que Dieu nous demande, il nous demande de le faire et de le croire. Ces matériaux, les matériaux du tabernacle, vous avez regardé ce qu'ils étaient? C'était des choses qui étaient à proximité du peuple. Ils n'ont pas eu besoin de transport express, d'appeler UPS, mais ils ont trouvé à proximité. Le Sinaï, le mont Sinaï, fournissait le bois d'acacia. Les troupeaux procuraient le poil, le cuir, le dauphin. Et oui, mes amis, il y a déjà un dauphin. Dont la mer Rouge donnait sa peau pour la bâche. Les Israélites avaient emporté d'Égypte plein d'or, d'argent, d'airain, d'étoffe, de fin lin. Vous voyez qu'on n'a pas un Dieu qui nous demande d'accomplir des choses extraordinaires. Mais il nous dit, vous avez les choses pour fabriquer. Je vous avais dit au mois de novembre, alors que nous voulions inviter quelqu'un, un groupe, et j'avais dit, parce que des amis demandaient si on avait l'argent, j'ai dit, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que nous avons l'argent. La mauvaise, c'est que c'est dans nos poches. Et Dieu, quand il a demandé au peuple de construire le tabernacle, il ne leur a pas dit de construire le tabernacle avec des choses qu'il n'avait pas. mais il leur a demandé de construire le tabernacle avec des choses qu'ils avaient. Et on a lu tout à l'heure qu'ils en ont tellement amené de choses qu'ils avaient que finalement, Moïse, il a dû dire, bon, maintenant, hein, allez chez Emmaüs, parce qu'il y en a un peu trop. Frères et sœurs, n'avons-nous pas assez pour que Dieu soit honoré? N'avons-nous pas, nous, non plus, de l'argent, de l'or? On n'a pas de l'or en barre chez nous, si on en avait, ça se saurait. Mais quand Dieu nous demande quelque chose, il sait que nous l'avons. Et vous savez pourquoi il le sait? Parce que c'est lui qui nous l'a donné. Parce que c'est lui! Seigneur, non, écoute, tu dois te tromper, c'est pas chez moi que tu as fait la livraison. Il y a eu erreur d'adresse. Ah bon? Ne t'ai-je pas donné la vie, mais le vêtement que tu portes? Ah, Seigneur, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Mais qui lui a dit de te donner? Ils ont fait des offrandes volontaires, à tel point qu'on a dû les empêcher, je l'ai déjà dit au verset 35, au chapitre 35. On a estimé, écoutez, on a estimé la valeur de tous les matériaux à 5 millions de francs or. Un peuple qui était riche, ils venaient de captivité. Ils étaient en promenade sur la terre. Ils n'étaient pas dans leur pays. Ils avaient été délivrés de captivité. Et Dieu a trouvé dans leur poche de grandes richesses. Ah. 5 millions de francs or. Et Dieu a suscité des ouvriers qualifiés, pas venus de l'extérieur, mais des hommes qu'il a remplis d'esprit pour accomplir des œuvres d'art. Nous, souvent, on laisse plutôt les femmes, hein, pour les œuvres d'art, pour décorer, pour mettre en place, pour embellir. Alors, mes amis, Dieu donne aussi aux femmes son esprit. Mais il a choisi parmi son peuple le voile. Vous savez, ce voile qui a été déchiré le jour de la crucifixion de Jésus. Il représentait quoi? Il représentait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu où le souverain sacrificateur rentrait une fois par an. Ce voile-là qui avait été fait avec tellement de cœur, tellement d'entrain, a été déchiré. Pour dire, nous n'en avons plus besoin. Maintenant, vous pouvez rentrer directement. Vous êtes devenus des sacrificateurs pour mon Père. Un peuple saint. Oh, mes amis, ça fait pas du bien de relire ces textes. Ça fait pas du bien de se dire, tous ces petits détails ont tellement d'importance pour que je comprenne pourquoi il est dit dans Hébreux que Jésus est notre souverain sacrificateur. Rentrer dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Tout le sanctuaire reposait sur des bases d'argent. Vous savez ce que c'était les bases d'argent? C'est ce qui avait servi au rachat des esclaves. L'argent qui avait servi aux négociations. Jésus nous rappelle, et on oublie des fois, que Dieu a payé un prix très élevé. Je ne pense pas que les 5 millions d'argent or aurait suffi à payer notre dette. Le tabernacle était là pour rappeler qu'il y avait un prix à payer et que ce prix était de très haute qualité. L'arche, le type complet de Christ, était fait de bois d'acacia recouvert d'or. Le bois, c'est quelque chose de faible. C'est une faible plante. L'or, inaltérable, précieux, représente la divinité. le sacrificateur, le médiateur, chargé d'établir le contact entre le peuple et Dieu. Et puis, dans ce tabernacle, il y avait le chemin. Et ceux qui sont venus visiter notre exposition pendant une semaine, il y avait là, sur la gauche, ce tabernacle. Il y avait une miniature qui nous montrait quel était le chemin, comment aller jusqu'à Dieu. Et c'est intéressant parce que le Nouveau Testament, il nous dit par la bouche de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et il ajoute, « Nul ne vient au Père que par moi. » Mais quand vous avez lu Exode 35, et quand vous lisez ce texte, vous dites, « Ah, mais tout c'est clair. » Non ? Voilà pourquoi Jésus fait une affirmation comme ça, parce que même plus tard, quand l'auteur des Hébreux dira « Il est notre souverain sacrificateur, il est le seul qui a pu me mettre en contact. » Les autres chemins, s'ils mènent tous à Rome, ils ne mènent pas à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? On essaye de multe façons de s'approcher de Dieu. Chacun sa façon, chacun sa voie. Chacun sa route, chacun son combat. Hein. Sur le parvis, dans ce tabernacle, Dieu avait entouré d'une barrière immaculée, 2,50 m de haut. La sainteté tenait les hommes pécheurs à distance. La clôture est portée par une colonne distante de 5 coudées, 5 fois 25 cm. Et la cour est formée de 100 coudées. Donc pour s'approcher de Dieu, mes amis, barrière. Qu'est-ce qui fait obstacle ? Le péché. Romains 3, 23. Car, salaire du péché, c'est la mort. Hein, la mort, c'est ne pas s'approcher de Dieu. Vous avez vu qu'on peut réconcilier le Nouveau Testament et l'Ancien Testament très simplement en regardant pourquoi Dieu a donné tellement de détails. Parce que Dieu n'a rien voulu laisser. Qu'on ne comprenne pas. La porte. Le seul moyen d'accès est un rideau à la fois facile et suffisant pour marquer la séparation entre le dedans et le dehors. C'est le chapitre 27 de l'Exode. Il porte 4 couleurs. Et ce qui est intéressant, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 9 et 10, et là, les enfants, ils peuvent m'aider. Dans Jean 10, il est écrit quoi ? Les enfants de l'école du dimanche qui étaient là tout à l'heure. Dans Jean 10, il est dit, « Je suis la porte. » Ah ! « Je suis la porte. » Si quelqu'un y monte et n'est pas de mon peuple, c'est un loup qui rentre dans la bergerie. Jésus a dit, je suis la porte. Ah, il y avait une porte pour rentrer. Et il dit, je suis cette porte. Dans ce tabernacle, il y avait l'autel des holocaustes. Dès son entrée, dès son arrivée, le pécheur se trouve face à un autel. Là, il faut offrir un sacrifice. Il égorge sa victime. Le sang répandu fait l'expiation de ses fautes. Car la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Toutefois, le sang d'un animal, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ôte pas le péché. Il sert à le couvrir. Vous vous rappelez, l'autre jour, en célébrant Pâques, on a rappelé ce moment où le peuple d'Israël a mis sur le linteau des portes, du sang, pour que l'ange ne voie pas. Ça couvre, ça cache, mais ça n'enlève pas. La cuve d'airain, entre l'autel des holocaustes et la tente, sert à la purification. Vous savez, il est intéressant de revenir sur ces textes parce que finalement, nous on a l'impression que voilà, maintenant la porte est ouverte. On rentre, salut Dieu, tu vas bien ? Le respect a disparu. On se présente devant ce Dieu trois fois saint. Nous, on est trois fois pécheurs. Tout nous rejette, mais bon, il nous accepte, il est tolérant, lui. Avec lui, au moins, on peut négocier. La cuve nous rappelle cette purification. Dans la nouvelle alliance, le croyant sauvé par le sacrifice de la croix rentre dans le sacerdoce royal aussitôt en devenant membre de son Église. Non seulement il est pardonné, mais le texte de 1 Jean 9 nous dit en plus nous sommes purifiés. Ha ! Pardonné, vous connaissez le texte de 1 Jean 9 ? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et pour nous purifier. Pour nous rendre purs. Pour enlever les impuretés. Vous savez, j'ai trois filles. Quatre avec ma femme. Alors c'est intéressant, c'est si le miroir pouvait me raconter toutes les impuretés qu'elle s'enlève du visage pour paraître belle. Et imaginez que Dieu se soit attaqué à notre impureté de la même façon. Fais voir, attends, je vais te l'enlever celui-là. Dieu par un sacrifice à la croix, en acceptant de porter nos combats à la croix, à porter tous nos fardeaux, tout le poids de ce que nous avions fait. Et vous savez quoi ? Un petit détail. La cuve avait été faite avec les miroirs des femmes. La cuve avait été faite avec les miroirs des femmes. Ça, on oublie. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est intéressant qu'à chaque fois qu'on offre quelque chose, on ne se souvient pas pourquoi on l'offre. Mais là, ceux qui, en fait, venaient au-dessus, ils voyaient leur tête. C'est pour moi que je paye. Mes amis, Jésus, il est mort à notre place. Pas pour mes frères et mes sœurs, mais pour mes péchés. Et il est bien de s'en souvenir. La tente mesurait, elle, 30 coudées de long par 10 de large. Vous multipliez par 25 à chaque fois. L'entrée était d'un côté faite de 24 planches. Il y avait 4 couvertures. La plus belle de ces couvertures avait 4 couleurs. Brodée de chérubins était à l'intérieur, elle tenait lieu de plafond et recouvrait aussi les parois intérieures du tabernacle. Cette tenture se composait de 10 pièces, chacune de 28 coudées sur 4. Les pièces étaient cousues 5 par 5, puis soigneusement assemblées. De ces assemblages, l'un constituait le plafond, les trois autres le lieu très saint, tandis que l'autre formait le plafond et les autres lieux. La deuxième couverture était en poil de chèvre, ensuite une en peau de bélier, enfin une tenture en peau de dauphin. Protégé. Le lieu très saint. Ce lieu où on rentrait avec précaution le souverain sacrificateur mesurait 10 coudées de chaque côté. 10%. 100 coudées, c'était l'extérieur. 10 coudées, c'était l'intérieur. Espace réduit, 10%. Tiens, c'est intéressant, 10%. C'est ce que Dieu nous demande de donner au minimum. Il est aisé de comparer ce sanctuaire avec la maison spirituelle dont nous faisons partie. Elle est fondée, elle, sur Christ. Il est celui qui nous a rachetés. Nous, les croyants, nous sommes les pierres vivantes qui nous élevons pour former une habitation de Dieu, un saint temple. Waouh ! Mes amis, si je me permets de rentrer dans le détail comme ça ce matin, c'est que il y a des détails qu'on a besoin de comprendre et que dans notre négligence, nous avons besoin d'être rappelés. Nous oublions tout le bien que s'est donné Dieu. J'allais dire tout le mal, mais moi je vais dire tout le bien. Avec quelle précision Dieu a dicté les choses ? Oh, mais c'est pas important. Alors, moi, il y a une question qui me vient. et qui m'est venu quand je préparais ce message, c'est de se dire, mais alors, beaucoup quand ils lisent le chapitre 20 de l'Apocalypse, vous savez, le chapitre 20 de l'Apocalypse, c'est un chapitre magnifique, puisque c'est là qu'on est en train de dépeindre la maison, la ville, la cité que Dieu est en train de préparer. Vous vous rappelez de ça? J'en avais fait avec vous un petit peu les détails aussi. Et on peut se dire exactement comme dans l'Ancien Testament, oui, mais enfin bon. Bon, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du... Oui, il y a plein de choses. Mais il y a l'arbre de vie aussi, tiens, oui, c'est bien. Ah, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de soleil. Mais nous sommes là dans la présence de Jésus-Christ et c'est lui notre lumière. On peut aussi négliger de lire ces textes. Mais alors mes amis, si on néglige l'Ancien Testament et si on néglige la lecture du Nouveau Testament, on croit en quoi? En un salut virtuel? En un salut à bas prix? Où nos responsabilités ont disparu? Je ne crois pas. Que ça soit le rideau à l'entrée, la table des peintres pour proposition, le chandelier d'or, l'autel des parfums, en face du voile devait brûler matin et soir. Et la Bible dit que les prières sont ce parfum. Le symbole de la fumée d'encens montant vers le ciel, voilà, c'est Jean qui dit dans Apocalypse 5, 8 et 8, 3 et 4, qu'ils sont comme nos prières qui montent vers Dieu. J'espère que je vous donne envie. J'espère que je vous donne envie de lire dans le détail toute l'Écriture. Et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous l'a laissé. Pourquoi est-ce que Dieu s'est manifesté avec tellement de joie, tellement d'entrain, et comment il a réussi à ce que son peuple amène tout ce qui soit nécessaire pour le faire. Le Seigneur lui-même a dit, c'est là, dans Exode 25, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Jésus a dit à Zachée, vous vous rappelez? Zachée, descends. Qu'est-ce qu'il lui a dit après? Je veux aller chez toi. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. La porte, tiens, c'est intéressant, la porte. Celui qui entendra, qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Quand Jésus annonce son départ, il dit à ses disciples, le Saint-Esprit est avec vous dorénavant, il sera en vous. Et on dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a ouvert la porte. Parce que lui nous a ouvert la porte vers Dieu, un Dieu très saint. Mais si on ne comprend pas, si on n'a pas l'explication avant, alors tout ça c'est bien sûr éphémère. Pourquoi est-ce que Dieu parle avec tellement de soin de petits détails, qui ne sont pas des détails? Parce qu'ils sont nos points d'entrée pour le ciel, mes amis. Ils sont nos points d'entrée vers notre Dieu. Beaucoup viendront vers moi, a dit Jésus, et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus leur dira, je ne sais même pas qui vous êtes. Faire, essayer de trouver un moyen pour se convaincre, est une chose importante. Mais nous ne pouvons pas faire, Éphésiens 2 nous dit, si nous ne sommes pas. Et si nous n'avons pas compris pourquoi Dieu a donné tous ces détails, c'est pour expliquer comment nous devons vivre. Alors, frères et sœurs, la Bible a dit que Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Un peuple saint. Afin que nous le servions et que nous le glorifions. Alors, ma volonté ce matin, et depuis plusieurs dimanches, en prêchant sur l'Ancien Testament, c'est de nous rappeler que si nous faisons partie de ceux qui lisent 10% de l'Ancien Testament, qui laissent tomber trois quarts de la Bible en disant c'est de l'histoire ancienne, je vous invite à reconsidérer votre position. Et je vous invite par la grâce de Dieu à lire ces textes. Qui, comme nous l'a dit, c'était mon message il y a 15 jours, que toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour redresser dans la justice. Parce que là, on va comprendre pourquoi Dieu l'a voulu, pourquoi le sacrifice de Jésus était utile, et pourquoi enfin ce Dieu de proximité n'est pas un Dieu nouveau, mais il est bien le Dieu que je trouve aussi dans l'Ancien Testament. Nous sommes enfants de Dieu. Ma question à savoir maintenant, si nous manifestons que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, chose qui nous arrive le jour où nous rencontrons Jésus-Christ, si nous manifestons que nous sommes ses enfants, alors qu'est-ce qui nous empêche de faire ce que Dieu nous demande? Avons-nous le cœur touché? J'aimerais relire juste avec vous, dans Exode 25, 35, 35, j'en veux avec le 25, je ne sais pas pourquoi. Exode, le deuxième livre. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service, pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Mes amis, j'aime que ce texte soit là. Nous n'avons pas un Dieu machiste, mais un Dieu qui a ouvert la porte de la grâce à tous les êtres qu'il avait créés, hommes et femmes. Alors ce matin, je veux nous mettre un défi ensemble, et je m'inclus dedans. Que nous devenions ces hommes et ces femmes touchés dans notre cœur, afin que nous puissions remplir le service de Dieu, afin que lui soit honoré. Afin que lui soit acclamé, que lui soit proclamé dans notre pays de France, et que l'Église évangélique, le phare de Vigneux, ne soit pas un nom, mais soit une réalité. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce beau rappel ce matin. Je l'ai parcouru très vite, mais Seigneur, tu es un Dieu compatissant et juste. C'est toi qui as pris l'initiative avec ce tabernacle. C'est toi qui, dans le Nouveau Testament, as offert ta vie. Personne ne te l'a pris, Seigneur. Ni Judas, ni les Romains, ni les Juifs. C'est toi qui l'as donné. Et Seigneur, tu n'es pas resté enfermé dans la mort, parce que la Bible dit que tu es ressuscité. Que le sacrifice a été accepté, que nos péchés ont été pardonnés. Seigneur, ce matin, je voudrais juste te demander, dans le creux de nos cœurs, que si nos cœurs n'ont pas été touchés, si notre relation avec toi est superficielle, s'il y a des domaines que nous n'avons pas compris, et il se peut que nous n'ayons pas tout compris, eh bien Seigneur, que tu fasses de nous des hommes et des femmes assidus dans la relation avec toi, dans la lecture des textes que nous appelons ta parole, pour que nous soyons aussi capables de l'expliquer aux autres, et pour qu'un peuple nombreux dans cette ville honore ton nom et puisse prendre, comme David tout à l'heure, la même assurance que tu vas l'entourer, que tu veux le sauver. S'il y a des hommes et des femmes ce matin qui ont besoin de s'approcher de ce Dieu de détail, de ce Dieu d'amour, Dieu veut une relation avec nous, mes amis. Il ne veut pas être tout seul, vous savez, comme ce PDG inatteignable, cet homme d'affaires trop préoccupé par ses affaires. Nous sommes sa préoccupation. S'il y en a ce matin qui se disent « Oui, je veux le redécouvrir, ce Dieu que j'avais approché, mais ou peut-être ma vie, mes déceptions, mon découragement, ma faiblesse ont permis que je m'éloigne. Dieu veut une communion avec moi. Alors que si c'est votre cas ce matin, tout simplement, là vous êtes, vous dites « Oui, Jean-Claude, oui, pasteur. » J'aimerais me retrouver cette communion avec mon Dieu. C'est lui qui s'est offert. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait juste que je prie pour lui, pour elle, pour que Dieu l'encourage à redécouvrir cette proximité que lui-même a créée par son sacrifice? Y a-t-il quelqu'un? Oui. Que Dieu vous bénisse, oui. Que Dieu vous bénisse, oui. Que Dieu vous bénisse, oui. Oui. Oui, que Dieu vous bénisse, mon frère. Oui, Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin parce que des hommes, des femmes ont manifesté ce désir de s'approcher de toi. À nouveau. Seigneur, tu les bénis là où ils sont. Et tu nous bénis, nous tous, Seigneur, quelle que soit notre situation de vie, quels que soient nos découragements, quels que soient nos encouragements, à ne pas baisser du regard. Et à garder précieusement, comme un grand trésor, cette relation avec toi, afin que tous ensemble, nous puissions manifester ta grâce et ta joie. Au nom de Jésus. Amen.